Et voilà, bonjour à chacun. Ça nous fait plaisir d'être là ce matin, tout à nouveau. Et c'est vrai, ça me fait plaisir de voir des frères et sœurs. On est réunis, on n'est peut-être pas nombreux, mais moi je trouve qu'il y a la présence du Seigneur, là où se réunis des frères et sœurs qui ont leur cœur centré sur le Seigneur. Amen. Et ça nous fait plaisir d'être là ce matin parmi vous. Alors je vous amène les bonnes salutations de tous les frères et sœurs qui sont avec nous, et puis aussi nos remerciements pour vos prières. Justement, Pierre me disait que vous recevez les lettres de nouvelles qui sont lues. Vous avez l'occasion de savoir un petit peu, de suivre notre parcours. Alors, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour nous. Et on vous remercie également pour votre offrande que nous venons de recevoir le 30 avril. Alors, merci beaucoup pour votre participation également aux besoins de l'équipe. L'équipe vient de, enfin, on est parti, ça fait déjà, c'est le 1er avril, on arrive à la fin de notre tournée. Alors, l'équipe s'est déplacée, donc, dans une ville qui s'appelle Manzanilla. Alors, c'est la troisième fois qu'on y est, on y était en 2010, en 2015, et nous voilà de nouveau dans cette ville. Alors, on remercie le Seigneur, les nouvelles sont bonnes. Il y a des âmes qui viennent sous la tente, justement. Alors, il y a beaucoup de parmi les voisins, enfin, que des alentours, dont notamment Antonio. Alors, Antonio est en train de faire le pas. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a reçu l'opposition de son épouse, de ses enfants, du moins au début. Je ne sais pas quoi s'en est exactement dans ce sens-là. Il avait arrêté de venir un certain temps, pendant quelques jours, et puis voilà, il est réapparu de nouveau, et on dirait plus décidé que jamais. Alors voilà, il est là, il vient à toutes les réunions, il va même au culte les dimanches, à la petite assemblée qu'il y a à Escacena. Alors, on remercie le Seigneur pour son œuvre, ce qu'il est en train de faire. Et puis voilà, alors c'est vrai, les années passent, frères et sœurs, les années passent, hein. C'est vrai que ça fait bien des années que nous venons ici à la Chapelle de l'Espoir. Je pensais, trois de mes collègues, enfin de frères et sœurs, nous étions 50 quand nous sommes arrivés en 1974 en Europe. Alors, on était une cinquantaine, et voilà que dans les derniers mois, eh bien, deux frères et une sœur sont décédés. Alors, le Seigneur les a emportés. Alors, ce sont des frères et sœurs avec lesquels j'ai travaillé, et j'ai eu du plaisir à travailler. Notamment notre sœur, il y avait notre sœur Debbie qui est décédée. C'était la première à partir il y a deux mois. Debbie, faites voir un petit peu. Regardez, je crois que c'est celui-là. Eh bien, Debbie, vous le retrouvez dans le chant « J'aime l'Éternel » après le chant numéro 14 qui est le psaume 100, voilà, que nous avons lu ce matin. Alors, il y a cette photo. Alors ça, c'était, je crois que Jeunesse en Mission aura retrouvé l'équipe à ce moment-là de Christ à la Réponse en 1974. Ça doit être à ce moment-là en Allemagne ou en Autriche, la photo a été prise. Alors, il y a notre sœur Debbie qui est là, voilà, Deborah. Alors, elle est américaine. Sur la photo, il y a justement aussi la maman de notre gendre, maman adoptive, et puis ma belle-sœur qui est derrière, là, on voit un petit peu, alors sur la photo. L'épouse de mon frère Simon qui est avec moi, qui sont avec nous. Alors voilà, notre sœur est partie avec le Seigneur, et elle avait été opérée au genou, et puis finalement, eh bien voilà, elle sentait que le Seigneur allait venir la chercher. Pourtant, tout allait bien. Et puis elle avait dit à son mari, elle a dit, je sens qu'aussi le Seigneur me dit qu'il va venir me chercher. Et puis voilà, un soir, elle a demandé à son mari de prier pour elle et de la bénir. Il a prié pour elle, bon, il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle parte, mais voilà, je pense que c'est elle qui savait qu'elle allait partir. Et puis le lendemain matin, sa fille lui a préparé des crêpes, elle aimait bien les crêpes, voilà, c'est un peu le style américain. Alors elle a mangé, après ça elle a dit, ben je me sens un peu fatiguée, je retourne me reposer. Et puis voilà, elle s'est jamais réveillée. Alors c'est une sœur avec laquelle j'ai travaillé, on était ensemble dans le groupe musical pendant 3 ans et demi, sous la tente en Italie, On allait de ville en ville, on annonçait le message de l'Évangile. Et c'est une sœur qui aimait vraiment le Seigneur, qui marchait très près du Seigneur. On remercie le Seigneur pour notre sœur Deborah. Il était marié à Giovanni Romano. Alors lui, il est italien, sicilien. Voilà. Alors notre sœur Debbie est partie. Et dans ce groupe musical, eh bien, il y avait Steve. Je disais toujours que Steve, c'était un peu mon frère jumeau. Enfin, il est noir américain, vous voyez. Alors, vous dites, ouais, jumeau, dans quel sens? C'est-à-dire qu'on était toujours côte à côte, Steve et moi. Il s'était joint à l'équipe 6 mois après moi. Alors, Debbie, elle s'était joint dans la même ville où je me suis converti. On était ensemble pendant tout ce temps. Et puis, Steve, on avait été en Suède pendant une année avec Steve dans une petite équipe. On nous avait envoyé là-bas. Steve chantait, moi je jouais la guitare. Et on nous a rappelé dans l'équipe d'Italie à ce moment-là, en 1975. Et pendant 3 ans et demi, Steve, il chantait donc beaucoup de négros spirituels, voilà. Il aimait bien chanter ce genre de chant. Alors, il a fait plusieurs CD en Italie. Il est connu parce que partout où on est passé, voilà, les gens le connaissaient. Notre frère Steve qui nous a précédés aussi. Et puis, maintenant qu'il le 30 avril précisément, eh bien notre frère Jared c'était le responsable de l'équipe quand on est parti pour l'Espagne en 1980. Alors notre frère est décédé en Hongrie suite d'un cancer de la prostate. Et voilà, il était prêt à partir. Alors il servait le Seigneur en Hongrie. Alors, il était infatigable. Il annonçait le message de l'Évangile. Il allait aussi en Bosnie, parmi les musulmans, pour annoncer la parole de Dieu. Alors, sa fille, d'ailleurs, vit en Bosnie avec son mari. Voilà. Alors, vous savez, on est les prochains sur la liste. Enfin, je dis pour ceux qui sont déjà un peu plus âgés, hein. On est dans ceux qui sont sur le point du décollage, hein. Voilà, du départ. On est sur le point. Et c'est vrai qu'il nous reste pas tellement de temps, mais pendant ce temps-là, nous voulons en profiter de la bonne manière et nous voulons continuer à proclamer le message de l'Évangile. Amen. Alors, ça me fait plaisir ce matin, vraiment, d'être la frère et sœur. Je vois ma sœur Anna qui est là au piano. Ça me fait plaisir de la voir jouer du piano, être encore là, fidèle au poste. Hein. Alors, voilà. On remercie le Seigneur. Notre frère Joseph qui a été opéré, voilà, il y a fait 13 jours. Voilà. Et oui. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager dans l'évangélisation. L'évangélisation, vous savez, bon, on dit Christ a la réponse, une équipe d'évangélisation. Des fois, ça peut donner une mauvaise note, c'est-à-dire une note un peu, vous savez, parce qu'en réalité, l'évangélisation, c'est la part de tous ceux qui sont nés de nouveau. Alors, c'est votre part, c'est notre part, donc, si nous sommes une équipe d'évangélisation, vous êtes une équipe d'évangélisation, parce qu'on est tous appelés à proclamer le message de l'Évangile. Nous avons connu Christ, nous voulons le faire connaître. Hein? Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager dans ce sens. Claude parlait du plan de Dieu, hein, de ce qu'il nous disait ce matin. Et une des parties du plan de Dieu, bon, si on veut prendre l'ensemble, mais Dieu nous a révélé son plan, le plan de Dieu. Et dans ce plan-là, moi je trouve que c'est formidable, comment Dieu fait les choses. Parce que on voit qu'au tout début, il a créé l'homme et la femme. Alors, ne vous préoccupez pas, vous allez dire, là, il commence avec Adam et Ève, ça va prendre combien de temps avant de terminer? Alors non, je vais être assez concis ce matin. Alors voilà, Adam et Ève. Alors, il leur a dit, il a créé l'homme, et de l'homme, il a créé la femme, et voilà, il les a unis, il les a bénis, et leur a dit, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Ça fait partie du plan de Dieu. Si Adam et Ève n'auraient pas obéi à ce commandement, eh bien voilà, ben ils auraient dit, ouais, ben on est content d'être les deux, voilà, on est satisfait comme ça, on est tout content d'avoir l'un l'autre, et puis voilà, ben, on ne serait pas là ce matin, il n'y aurait pas de culte ce matin à nulle part, parce qu'il n'y aurait plus personne sur la face de la terre, parce qu'Adam et Ève seraient déjà décédés bien, bien des années, même s'ils ont vécu 900 et quelques années. Alors voilà, frères et sœurs, donc ça faisait partie du plan de Dieu. Alors, j'aimerais lire un texte dans Jean chapitre 16, verset 21. Un verset qui est bien connu, c'est Jésus qui le dit. Écoutez, non, ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors ça, c'est Jésus qui le dit. Alors, bien sûr, la femme, quand elle est sur le point d'accoucher, bien sûr, les douleurs de l'enfantement, c'est clair que c'est pas agréable, hein? Je pense que toute femme qui passe par là, il y a des moments de souffrance. Mais quand on ce petit être qui arrive au monde, hein? Moi ça me fait penser à notre fille Mélodie quand elle est née, eh bien j'étais présent. Alors ça a été une expérience inoubliable pour moi, inoubliable. La joie que j'ai vue de voir ce petit être entrer dans le monde, et moi j'avais de la joie dans le cœur, notre fille est née. Voilà. Pour la seconde, Angèle, bien voilà, on était en Suisse. À ce moment-là, on avait fait toute une tournée à travers l'Europe. On avait été obligé de sortir du Portugal pendant au moins 6 mois. Il fallait sortir pendant au moins 6 mois. Alors, on avait fait d'évangélisation en Suisse, en France, en Belgique, en Finlande. On était pendant 9 mois un peu partout à travers l'Europe. On était toujours ensemble. Et voilà que nous étions ici en Suisse, en automne, et visitant, faisant des campagnes d'évangélisation, une semaine dans un endroit, une semaine dans d'autres, avec différentes églises. Et puis, voilà que ma belle-sœur, elle avait prié pour pouvoir assister à l'accouchement de notre fille Angèle. Bien voilà, je pense que ces prières ont dû avoir prévaloir sur les miennes, parce que, voilà, moi je n'y étais pas, parce que j'étais en Suisse allemande. D'ailleurs, aujourd'hui, nous retournons au même endroit, à Saint-Gall, à ce moment-là. Alors, voilà. Et puis, moi, ça a été une joie de voir ma fille naître dans ce monde. Alors, frères et sœurs, c'est clair, avoir des enfants, c'est pas évident. Hein, moi, je pense à ma maman, par exemple, qui a eu, elle a eu mon frère aîné. Ça, c'était en 1935, au mois de janvier 1935. Mon frère aîné. Et puis, pendant 7 ans, c'était des fausses couches. Vous savez, des fausses couches. Alors, elle se disait, ça sera un fils unique. Mais elle ne s'est pas désespérée. Elle a continué. Alors, elle a eu 8 enfants. Voilà, ma maman. Alors, vous me direz, oui, mais vous en avez eu 2. Est-ce que vous avez quelque chose contre les grandes familles? Eh bien, si ma maman se serait arrêtée au 5e, je ne serais pas là. Voilà, donc, je suis reconnaissant pour pour ma maman qui ne s'est pas arrêtée. Alors, elle ne s'est pas découragée. Vous savez, des fausses couches, on pourrait se décourager à la fin et dire, c'est fini maintenant. Mais non, elle ne s'est pas découragée, elle a continué. Alors, frères et sœurs, vous me direz, mais pourquoi tu nous parles de toutes ces choses-là? Oui, c'est bien, avoir des enfants et tout ça. Mais regardez, je vais vous lire un texte. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 14. Bon, Paul écrit aux Corinthiens, écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Mes enfants bien-aimés. Alors, Paul parle des Corinthiens comme étant ses enfants bien-aimés. Regardez dans quel sens il le dit. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, Paul a engendré des fils et des filles, voilà, par le moyen de l'Évangile en Jésus-Christ, en Christ. Voilà, cette vie nouvelle. Et là, ces personnes ont expérimenté, ont entendu l'Évangile, ont reçu le message de l'Évangile, ont cru, et voilà, sont entrées dans cette relation avec Dieu. Et quand on parle de la relation entre Adam et Ève, n'est-ce pas, il y a eu cette relation entre eux, bien que cette relation a découlé toute l'humanité. Et là, dans notre relation avec Dieu, Eh bien, nous pouvons, frères et sœurs, engendrer des fils et des filles dans le Seigneur. De quelle manière? Par le moyen de l'Évangile que nous devons proclamer, que nous devons annoncer autour de nous. Alors voilà, apportez ce témoignage. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin, dans ce sens, parce que si vous êtes là ce matin, c'est parce que quelqu'un vous a annoncé le message de l'Évangile. Ça ne peut pas faire autrement. Hein? Si vous avez cru, c'est parce que quelqu'un vous a annoncé. Ou alors, ce sera à travers la Bible que quelqu'un a imprimé, que vous avez lu la Bible, ça vous a interpellé, et voilà, ces passages vous ont amené à vous approcher de Dieu, à mettre votre confiance en lui, dans le message de l'Évangile. Mais voilà. Alors, regardez bien, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est l'apôtre Paul. Bon, l'apôtre Paul, il pouvait bien dire ça, lui, il était apôtre. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit tout de suite après. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Bon, « soyez mes imitateurs », c'est peut-être par l'exemple qu'il donnait, dans toutes sortes de choses, hein, par sa bonté, son humilité, enfin, sa, voilà, ses attitudes, enfin, voilà. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas exclure nécessairement non plus le fait d'engendrer des fils et des filles. D'ailleurs, vous regardez le verset 17 après. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Timothée avait entendu parler d'Évangile depuis petit, puisque sa maman, sa grand-maman, l'avait initié aux Écritures. Mais il y a dû y avoir un moment donné dans la vie de Timothée où il a entendu Paul, et puis c'est là qu'il aura pris une décision de donner sa vie au Seigneur Jésus, à travers Paul. Alors Paul parle de lui comme étant son enfant bien-aimé. Sûrement, Paul l'aura engendré aussi par le moyen de l'Évangile qu'il annonçait. Timothée a cru, et puis voilà, a été avec lui, un des disciples du Seigneur. Alors, il y a un texte dans la Genèse qui m'interpelle, et ce texte-là, bien sûr, si on regarde un petit peu au texte, eh bien, ça nous fait penser, on devrait l'appliquer dans un sens spirituel pour nous, c'est concernant Rachel. Rachel. Alors, on connaît l'histoire de Rachel. Jacob, aimait Rachel. Alors, il désirait, donc, pouvoir se marier à Rachel. Celui qui allait devenir son beau-père lui a dit, ben voilà, tu travailles 7 ans, et puis voilà, tu auras ma fille. Par contre, on sait qu'il l'a trompé, parce qu'à la fin, c'est pas Rachel qu'il lui a donné, il lui a donné Léa. Alors voilà, bon, il a eu Léa comme première épouse, et puis ça c'était la coutume parmi ce peuple-là, dans ce temps-là, hein, ça c'était avant que le peuple d'Israël n'existe même, et puis voilà, alors donc il a eu Léa, et puis il a travaillé encore 7 autres années pour avoir Rachel. Le problème c'est que Léa lui donnait des enfants à Jacob, Rachel était stérile, elle ne lui donnait aucun enfant. Alors, regardez qu'est-ce que Rachel déclare. Bien sûr, elle aurait dû adresser sa prière à Dieu et non pas à Jacob. Mais regardez qu'est-ce qu'elle dit. « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. » Alors ça, c'était le cri de Rachel. Bien sûr, Jacob, lui, il a mal pris ça, bien sûr. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Puisqu'il voulait lui dire, « Ben voilà, mais adresse-toi à Dieu, adresse-toi pas à moi. » Voilà, en réalité. Bon, on sait que Dieu a entendu la prière de Rachel. C'est dit plus tard que Dieu se souvint de Rachel. C'est souvent de Rachel. Et à ce moment-là, eh bien, elle est tombée enceinte de Joseph, et puis elle a donné son premier fils, Joseph. Voilà. Et ensuite, ça a été Benjamin. Alors là, bien sûr, avec Benjamin, c'est vrai que l'accouchement a été très difficile au point où Rachel en est morte. Ça me fait penser, on devrait on devrait appliquer, demander à Dieu, « Dieu, donne-moi des enfants », dans le sens spirituel. « Donne-moi des fils et des filles. » Fais ce que je puisse engendrer, voilà, en Jésus-Christ, par le moyen de l'Évangile que j'annonce, eh bien, des fils et des filles. Ça devrait être le cri de notre cœur, le désir de voir des personnes se convertir, se tourner de leur mauvaise voie, se donner à la personne de Jésus-Christ et rentrer dans cette relation avec Dieu, cette vie nouvelle. Alors ça, ça devrait faire partie, ça devrait être le cri de notre cœur. Dieu, donne-moi des enfants ou je meurs. Et ça devrait être le cri de notre cœur. Je pense à un verset que nous retrouvons dans Ésaïe 54. Alors écoutez, qu'est-ce que ce verset nous dit? C'est un passage que nous connaissons bien. C'est le verset 1, du chapitre 54. Ésaïe 54, verset 1. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. En espagnol, c'est dit qui n'enfante pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, ou qui n'as pas de douleur. En espagnol, c'est dit, elle n'a pas de douleur. Elle n'enfante pas, elle n'a pas de douleur, donc elle est stérile. Hein? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est pas que Dieu ici encourage les personnes à vivre, il parle de celle qui est mariée, puis voilà, celle qui est délaissée. Bon, ben, on pourrait dire, alors quoi, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, il faudrait vivre dans la fornication, avoir plus de filles que ceux qui sont mariés, c'est quoi l'histoire? Non, c'est pas ça du tout. Et c'est ce que ça parle, ça nous parle, justement, c'est pas une invitation à vivre dans la fornication, c'est justement que, voilà, moi je pense à mon père et ma mère, ils ont eu, 8 enfants. Eux-mêmes provenaient de familles de 10 enfants, chacun. Mon papa avait 5 sœurs et 4 frères, ils étaient 10. Ma maman, elle avait 4 sœurs et 5 frères, voilà, ils étaient 10 aussi. Mais voyez-vous, il est possible que quelqu'un ait des enfants et d'en avoir même plus dans le Seigneur. Vous pouvez avoir peut-être 8 enfants dans le Seigneur, et en avoir peut-être 8 enfants physiquement parlant, et puis en avoir une dizaine, ou peut-être même plus, une quinzaine spirituellement parlant. Des personnes qui se sont données à Christ par votre témoignage, par l'annonce de l'Évangile. Alors donc ça devrait être réjouissant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, nous pouvons tous, par le moyen de l'Évangile, engendrer des fils et des filles. Alors donc, ça va autant pour les personnes qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires, qui sont restées peut-être sans se marier toute leur vie, et puis voilà, vous pouvez avoir des fils et des filles. Ça, c'est formidable. Et si c'est vrai que moi, je me suis réjoui pour la naissance de ma fille aînée, quand je l'ai vue naître, eh bien, je me réjouis toujours plus à chaque fois qu'une personne se donne au Seigneur. Chaque fois qu'une personne, reçoit le message de l'Évangile, se convertit, et vous les voyez naître de nouveau, ça vous donne une joie dans votre cœur. D'ailleurs, regardez. Je vais vous lire un passage dans Luc, chapitre 15. Alors ça, c'est pour encourager les frères, encourager les sœurs, puisqu'il y a deux exemples. Une parle d'un homme, l'autre parle d'une femme. Alors, le premier exemple, Jésus, c'est les deux paraboles qui précèdent la parabole du fils prodigue. Il dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ensuite, il parle d'une femme. Alors là, on pourrait dire que ça s'adresse aux dames, voilà. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, frères et sœurs, bon, ça nous arrive. Des fois, il y a des personnes qui nous demandent « Combien de personnes se sont converties à travers votre évangélisation le dernier mois ?» Puis il y a des fois, ben, on doit dire, bien, écoutez, frères et sœurs, le dernier mois, c'est plutôt du défrichage que de moissonner. Hein? Alors, c'est difficile de moissonner quand on doit défricher. Parce que souvent, vous arrivez dans des endroits, les gens sont déjà avec leur idée, si vous n'êtes pas catholique, vous êtes une secte, si vous êtes, et puis voilà. Alors, il faut défricher d'abord, souvent, pour pouvoir enlever certains préjugés, voilà. Alors, des fois on dit, oui, alors il y a deux personnes qui se sont converties le dernier mois. Ah bon? Oui, ben deux personnes, bon, ben ouais, ben, d'accord, oui, c'est pas mal, deux personnes. Mais vous savez, pour une personne qui se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Hein? Alors moi, si c'était seulement de moi, j'aimerais pouvoir ouvrir les portes du ciel et voir le visage de Dieu au moment où quelqu'un se repent de ses péchés. J'ai l'impression que je ne verrai pas un visage très triste. Hein? Je verrai un visage rayonnant de joie. Ça, je crois, c'est le visage de Dieu quand une personne... Vous savez, il y a de la joie au ciel. Mais le premier à se réjouir, je crois que c'est Dieu. Hein? Dieu se réjouit. Et d'ailleurs, ici, quand Jésus parle de cela, de cet homme qui va cherchant les brebis, bien, c'est un peu le Seigneur qui va en nous cherchant, nous. Et puis quand il rachète une, enfin s'en trouve une, eh bien vous pouvez imaginer, le Seigneur dit « Réjouissez-vous », parce qu'il se réjouit lui-même, hein? Le Seigneur se réjouit. Et aussi, si je pouvais ouvrir les portes du ciel, puis voir les anges, je pense que leur visage ne doit pas être un visage très triste non plus, quand une personne se repent de ses péchés. Alors, c'est vrai, on devrait vouloir faire plaisir au Seigneur, voir le Seigneur avoir de la joie sur son visage. Et sûrement, il en a quand une personne se repent de ses péchés. Alors, frères et sœurs, on a besoin d'être motivés. Sommes-nous motivés, justement, pour amener le message de l'Évangile? Ou, on pourrait dire aussi, mais qu'est-ce qui nous motive, si nous sommes motivés? Parce que j'ai entendu un témoignage, il n'y a pas tellement longtemps, ça fait à peu près, je pense, deux, trois mois, on parlait d'une église qui faisait de l'évangélisation. Alors, il semblerait que c'était aux États-Unis. Alors, faisait de l'évangélisation, c'était l'Assemblée faisait de l'évangélisation. Alors, c'était des campagnes qui se faisaient durant une période d'une semaine environ, je pense, j'ai l'impression, une semaine, une dizaine de jours. Je ne sais pas si c'était dans une salle ou dans une tente, enfin, mais le fait est-il qu'ils faisaient ces... Et à chaque année ou à chaque deux ans, ben, ils faisaient cette campagne d'évangélisation. On demandait à un évangéliste de venir et pouvoir apporter des messages durant cette série de réunions. Et puis voilà, le pasteur essayait d'encourager les frères et sœurs de l'Assemblée à inviter les voisins, les amis, les compagnons de travail, les connaissances, enfin, voilà, de pouvoir attirer les gens à ces réunions. À chaque année, ben, c'est un petit peu la même histoire, on aurait dit qu'il se répétait. L'Assemblée se retrouvait là et pratiquement c'était le même nombre de personnes, enfin c'était les gens de l'Église, pratiquement. Il y avait quelques personnes qui étaient inconverties qui venaient, mais c'était pas le gros nombre. Alors voilà. Mais il y a eu une année, alors là, c'était incroyable. Là, il y avait plus de gens non convertis que les gens de l'Église. Vous me direz, mais comment c'est possible ça? D'une année à l'autre, voilà, ça a changé à ce point-là. Ben oui, ça a changé à ce point-là. il y avait plus de personnes non converties que de convertis. Vous me direz, mais alors il y a eu un réveil. Bon, mais c'était pas vraiment le cas. C'était pas du tout le cas, mais enfin, ouais, ça me laisse un petit peu avec un goût, on dit aigre doux, hein, on dit aigre doux, hein, c'est pas tout à fait doux, voilà, c'est aigre doux, hein, c'est un peu, il y a un mélange un peu des deux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui s'est converti, et c'était un homme très riche. Il avait beaucoup, beaucoup de biens matériels, et puis il avait, il avait beaucoup d'argent. Pas s'il était millionnaire, mais en tout cas, il avait beaucoup d'argent, cet homme. Ça n'arrive pas souvent qu'une personne comme ça peut se convertir, mais ça m'aurait dit qu'il s'était vraiment converti, parce que la manière qu'il a agi par la suite, c'était qu'il voulait, avant, il dit, il ne me reste plus grand temps à vivre ici sur la face de la terre, alors moi, mes biens, voilà, il vendait ses biens, mon argent, c'est pour investir dans le royaume de Dieu. Alors, ça, c'est très louable, hein, n'est-ce pas? Ça démontre bien une personne qui se convertit. Bon, là, il n'y a plus son cœur sur les choses de cette terre. Comme on a dit, les choses de cette terre pâliront peu à peu. Mais voilà, c'était le cas de le dire. Ça pâlissait tellement que lui, il a dit, ben voilà, c'est pour le Seigneur. Alors, un jour, qu'est-ce qu'il a décidé? Juste avant la campagne, il a dit à ceux de l'Assemblée, puis ça faisait peut-être une année ou deux qu'il était converti. Il dit à ceux de l'Assemblée, il a dit, écoutez, pour chaque personne que vous allez amener à ces rencontres, je vous donne $1,000. Alors, bon, vous comprendrez pourquoi je dis un petit peu aigre doux, hein. Ça m'a laissé un peu, mais le fait c'est que ça a vraiment fonctionné. Les gens de l'Église ont été motivés à amener des personnes aux réunions. Vous me direz, oui, mais motivés par quoi? Par l'amour de l'argent ou par l'amour des âmes? Ouais, c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. Ouais. Enfin, le fait est-il que l'évangéliste qui venait, lui, ne savait absolument rien de tout cela. Les hommes qui arrivaient à ces réunions ne savaient absolument rien de toute cette histoire. Moi, je pense que le frère qui voulait donner son argent, je pense qu'il était bien intentionné. Peut-être a-t-il manqué de sagesse. Le fait est-il qu'il semblerait qu'il y a eu des vraies conversions. Bon, mais on peut se réjouir pour cela. Bon, il y a eu des conversions. Mais, alors, sommes-nous motivés à engendrer des fils et des filles, à amener le message d'Évangile aux autres? Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous invite ce matin à cela. Il ne faut pas se décourager, c'est vrai, c'est pas évident. Alors, vous me direz, oui, mais c'est pas... oui, du fond, on est un peu trop vieux pour ça. Ou alors, il y a certains qui disent, non, mais moi, je suis trop jeune pour ça. Alors... J'aimerais terminer par un témoignage. C'est le témoignage de Maria et de Rosé. Rosé et Maria, c'est un couple qui se sont convertis. Vous avez reçu la lettre de nouvelles. On en parlait justement de Rosé et Maria. Rosé, 72 ans. Maria, 70 ans. Alors, leur histoire, voilà que cette année, ils sont venus au début de la campagne. Ils viennent sous la tente. Et puis après la réunion, Maria voulait parler à Muriel. Elle dit, tu te souviens de moi? Puis Muriel a dit, non, je me souviens pas de toi. Ben oui, ben tu vois, elle commence à raconter son histoire. Et au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire, Muriel se rappelait. Ah oui, devant la pharmacie, c'est... Oui, je me souviens maintenant, oui. Alors voilà. Alors, et Maria racontait son histoire. Ça était 3 ans après, hein, parce qu'on était... On était là, en 2015, et puis là, voilà, ça va faire 4 ans, voilà, au mois de septembre, qu'on était là la première fois. Alors, Muriel avait parlé avec Maria. Moi, j'avais parlé avec un de mes collègues, avec Rosé et Maria. Ils avaient raconté l'histoire, leur histoire. Et là, Muriel lui dit, mais Maria, elle a la même attitude qu'elle avait. Elle avait la même rancœur, la même amertume, la même... Et là, Muriel lui dit, mais Maria, vous vous rendez compte? Il y a 3 ans, vous m'avez parlé de la même histoire. Exactement, et maintenant vous êtes exactement dans la même situation. Rien n'a changé. Et si vous ne prenez pas le temps d'ouvrir votre cœur au Seigneur et de lui donner votre vie, bien dans 10 ans, dans 20 ans, mais je vais vous rencontrer, vous serez encore au même point. Rien n'aura changé. Le seul qui peut changer quelque chose, c'est Jésus. Alors bon, Muriel lui a dit cela. Bon, alors, leur histoire, c'est que Rosée, à un certain moment dans sa vie, je ne sais pas à quelle époque c'était, parce que là, ils vont faire 50 ans de mariage, il a trompé Maria, à une occasion de trop, mais voilà. Il a trompé Maria. Alors, vous pouvez vous imaginer un petit peu pour Maria, ça c'est dans un endroit où tout le monde se connaisse. Tout le monde se connaisse. Alors, ça s'est su dans tout le... On pourrait dire un grand village, hein, c'est 2000 et quelques, 2200 habitants. Alors, vous voyez, tout le monde se connaisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Maria avait de l'amertume dans son cœur, de la haine contre cette femme. Elle ne pouvait pas pardonner à Rosée de lui avoir fait une chose semblable. Alors, vous savez, la honte de tout le quartier, enfin voilà, c'était vraiment pas drôle pour Maria. Alors, elle est tombée dans une dépression, elle était abattue, est venue s'ajouter à cela la mort de leur fils Fernando, 42 ans, mort d'un cancer des poumons à cause de la cigarette. Alors, elle était rebelle contre Dieu. Alors, il fallait pas pratiquement lui parler de Dieu, voilà. Elle était rebelle contre Dieu et tout ça. Elle en avait contre Dieu. Voilà, Dieu est venu prendre mon fils. Voilà. Puis, alors, elle en avait contre Dieu. Bon. De son côté, Rosée, il est venu proche de la mort à différentes reprises. Une fois, c'était, bon, c'est une région rurale, c'est les oliviers, les vignes. Cette région-là, ils vivent de ça. Les vignes, les oliviers. Il était avec sa petite moto, il s'en allait sur un petit chemin de terre, là, entre les vignes ou les oliviers, enfin. Et la moto, et voilà, il est tombé avec la moto, s'est frappé la tête, enfin, ils l'ont retrouvé avec du sang dehors, qui sortait par l'oreille, par la bouche. Il avait la bouche ouverte, pleine de fourmis, vous voyez un petit peu. Vous retrouvez quelqu'un comme ça, mais vous dites, ben, il est mort, quoi. Et il a été transporté à l'hôpital, il s'en est sorti. Une autre fois, c'était qu'il y avait un tuyau dans la cuisine qui perdait le nom de l'eau. Alors, il avait enlevé les dalles, était allé avec une brosse métallique, et puis, voilà, il avait enlevé la pièce qui était brisée, puis là, il allait par en dessous pour nettoyer, et puis il se rendait pas compte, il frottait son bras contre une des dalles, la partie d'en haut de la dalle, et là, c'était les rats qui passaient. Alors, vous voyez un petit peu, l'urine des rats, c'est un des poissons les pires. Il s'est pas rendu compte, il y avait du sang, le liquide lymphatique, là. Et puis, ça s'est mélangé avec l'urine des rats. Ben, ça, c'est un des pires poisons. Alors, finalement, dans le coma, à l'hôpital, aux soins intensifs. Alors, ça a été pendant 17 jours aux soins intensifs. On faisait purifier son sang par une machine pour voir s'il pouvait s'en sortir. Les médecins disaient à Maria, Maria, il faut vous attendre parce qu'il va pas survivre. Hein. Voilà, nous on fait notre possible, mais voilà. Et il s'en est sorti. Alors voilà que 3 ans après, nous revenons. Nous avons monté notre campement, la tente des réunions. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous étions en train de monter, enfin, notre campement, tout ça, voilà que Rosée était avec son tracteur dans le champ, eh bien, il est tombé, en tout cas, d'une hauteur, on peut dire à peu près, je sais pas, peut-être le bas de la croix, enfin, voilà. Ben, le tracteur est tombé, il s'est accroché au volant, et puis il s'est retrouvé sous le tracteur, voyez, sous le tracteur, il avait le siège sur une jambe, le volant sur un bras, il pouvait pas bouger, il était coincé là. Les gens qui ont vu dans le champ là, le tracteur qui était renversé, ben ils ont appelé la police. La police est venue, les pompiers, l'ambulance, ils l'ont dégagé. Voilà, ils l'ont sorti de là et puis il s'est remis debout. On l'a amené à l'hôpital, enfin aux urgences pour contrôler, mais il n'avait rien du tout, rien du tout. Alors, la seule chose qu'il a eue, on lui a donné une contravention parce que son tracteur n'avait pas passé l'expertise. C'est la seule chose qu'il a eue. Voilà. Mais le fait est-il que voilà, quelques jours après, qui apparaît sous la tente? Rosée et Maria. Ouais. Je pense que ça lui aura parlé. Et là, ils se sont donnés au Seigneur. tous les deux. Alors vous devriez voir vraiment le changement qu'il y a eu dans Rosé et Maria. Là, le Seigneur, elle est sortie, elle a demandé pardon à Dieu. Un soir, on a fait un appel, ils sont passés en avant, on a prié pour eux. Et puis, ils ont donné leur vie au Seigneur. Elle demandait pardon à Dieu pour toute sa rancœur, sa haine. Et elle disait, « Pour ma rébellion contre toi, Seigneur, pardonne-moi pour ma rébellion contre toi. » Alors, quand elle donne son témoignage, elle dit, « J'étais rebelle à Dieu. » Alors voilà, elle a demandé pardon. Et puis, elle a demandé pardon à Dieu pour toute la haine, pour la rancœur, pour tout ça. Mais le Seigneur l'a changé complètement, l'a sorti de la dépression. Les voisines, les voisins qui la voyaient disaient, « Mais Maria, mais tu n'es plus la même. Tu as complètement changé depuis que tu vas à ces réunions. » Alors, nous, on sait que c'est le Seigneur qui a fait son œuvre dans son cœur. Hein? Alors, elle ne se gêne pas. Eux, ils disent, « Ben, si ça serait pour parler de... Non, si ça serait pour des choses mauvaises, ben, on pourrait aller se cacher. Mais si c'est pour parler du Seigneur et de ce qu'il a fait dans nos vies, alors non. Là, on proclame l'Évangile. » Voilà, alors ils proclament, non, la parole de Dieu, ce que le Seigneur a fait pour eux, leur témoignage. Et puis, voilà, ben, disons, eh bien, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a purifié, Jésus m'a délivré. Voilà. Et alors, voyez, vous avez la porte de leur maison, Rosé Maria, alors il y a la rue. Alors, les maisons se suivent toutes, hein, c'est tout, voilà. Là, vous avez la porte de Rosé Maria, environ peut-être... 40 centimètres, une autre porte, c'est Madame la syndic. Alors, Madame la syndic, elle a vu le changement qu'il y a eu en Maria et en Rosé. Vous les regardez, vous diriez, mais ils viennent de se fiancer, ces deux. Ils sont amoureux l'un avec l'autre. C'est formidable de les voir. Non, c'est vrai, ça fait plaisir de les voir quand on les voit. Hein? Alors, elle a dit, mais... Ces gens-là, moi, je peux pas leur refuser les autorisations qu'ils me demandent. Ils me demandent les autorisations pour toutes les places de la ville. Alors, elle dit, ben moi, je leur accorde cette autorisation. Alors, on était pendant 3 mois sur les places de la ville, comme ça. Une fois, on a eu une réunion de prière, c'était la semaine universelle de la prière, hein. C'était au mois de février. Et puis, on a eu une réunion. Des fois, c'était à La Tente, des fois, c'était à Escacena. Il y a la petite assemblée. Qui se réunissent dans une maison, alors chez Rosario. Alors, et là, des fois c'était dans l'assemblée là-bas, des fois c'était chez le pasteur, des fois c'était à notre campement. Et une fois c'était chez Rosé et Maria. Maria disait, on va pas faire trop de bruit parce que Madame la syndic, c'est possible qu'elle ait une réunion ce soir. Elle est peut-être en train de se reposer, donc on va pas faire trop de bruit. Alors, et puis à la fin, ben, elle a servi des biscuits, du thé, enfin voilà. Elle a dit, ah oui, il y a ce petit sac là c'est des chocolats, enfin des biscuits enrobés de chocolat. Elle a dit, ça c'est Madame la syndic qui me l'a donné pour mes amis. Voilà. Alors c'est Madame la syndic qui avait donné ces biscuits, c'était voilà. Elle savait qu'on allait avoir une réunion de prière. Alors voilà, elle nous a donné des biscuits. Alors pour dire, frères et sœurs, ce que le Seigneur, alors. Là, on a Rosé Maria, mais ils témoignent, ils parlent du Seigneur autour d'eux. Vous me direz, mais c'est quand même incroyable, ça. Des gens qui travaillent dans les champs, des gens très simples, hein, 72 ans, 70 ans, ben... Alors, une des choses, c'est qu'ils ont une soif de la parole de Dieu. C'est incroyable. Là, Maria voulait lire la parole de Dieu. Elle a dit, j'ai besoin d'avoir une Bible. On lui a acheté une Bible à grandes lettres. Rosé, ben, c'est un de ses petits-fils, alors qu'il lui a donné une tablette. Alors là, il a la Bible, il peut y grandir, mettre les lettres plus grandes. Alors lui, il a fait seulement 2 années d'école. Hein. Alors il n'aimait pas tellement étudier, c'était dans les champs, vous savez, travailler, voilà. Et là, vous le voyez lire. C'est beau de le voir lire. Là, il est là en train de lire, et puis il doit revenir en arrière, relire de nouveau, et puis là, il arrive à se faire comprendre, quoi. Et lui, Maria, alors elle lit très bien, mais Rosé, alors, il a quand même un peu de difficulté. Mais là, on se rend compte que Rosé prend de la vitesse. Là, il est en train de lire toujours plus, non, toujours mieux, et voilà, je pense avec la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est encourageant de les voir. Là, moi, j'étais, juste avant de partir, ben, normalement, j'ai les cheveux un petit peu plus longs, hein. J'ai la coupe un peu vers en arrière, mais j'étais allé chez le coiffeur là-bas à Manzanilla, enfin, il n'y a pas de coiffeur à Manzanilla, donc, J'ai dit, je vais aller à Tucena, là, il y a un coiffeur. Et j'étais là, le coiffeur, je lui ai dit, écoutez, ne me coupez pas trop court. Voilà, les cheveux, vous savez, me coupez un peu plus court ici sur le côté, mais si vous me laissez. Mais alors, j'étais en train de lui témoigner de ma conversion. Puis il était en train d'écouter, puis en train de couper. Il dit, ouais, ben, il m'a laissé un petit peu, je pense, pour le film Tintin, je pense, c'est moi qui vais être l'auteur principal. L'acteur principal. Mais, voyez-vous, il m'a dit comme ça, il m'a dit, oui, dit, je pense que Rosé et Maria, tout le monde parle de Rosé et Maria, parce qu'ils savent qu'ils sont convertis. Il dit, je pense que Rosé et Maria vont aller là-bas, en Manzanilla, vous allez les voir. Ah oui, j'ai dit, on n'a pas encore commencé, là, ils sont là. Alors, Rosé nous a aidés pour le déplacement. Moi, je disais, Rosé, écoute, là, t'as 72 ans, fais pas trop d'efforts, hein, parce que, quand même, là, t'es plus un enfant. Mais c'est vrai, c'est difficile quand vous avez 68 ans de lui dire, à lui, de pas faire trop d'efforts quand vous en faites. Il a dit, quoi? Mais il dit, tu penses quoi? Il dit, quand je suis dans les champs, il dit, écoute, il dit, avec, il dit, c'est saut. Alors, il dit, c'est gros saut avec deux lances, comme ça, en plastique. Et là, il remplit ça d'olive ou de raisin. Vous savez, ça pèse, hein. Et il nous a apporté des noms des olives, hein, pour faire des noms nous-mêmes, préparer nous-mêmes les olives. Mais quand j'ai soulevé ça, j'ai dit, oui, dis donc, ça pèse, dis donc. Alors, il est costaud, il est assez trapu, mais costaud. Et là, le jour de mon anniversaire, c'était le 13 avril. Alors, je reçois ma fille, Mélodie, m'a envoyé une belle carte avec différentes petites photos qu'elle a repérées de quand ils étaient jeunes, avec sa sœur, avec nous deux, et puis voilà. Et puis certains de nos petits-enfants, Caleb et Étienne, et puis quand ils étaient plus petits. Et puis, elle m'envoie ça. Bon, elle m'envoie ça par WhatsApp. Et puis voilà que maintenant, je vois après, tiens, il y a un petit audio là, 22 secondes, j'ai dit, ce sera quoi ça? Elle dit, écoute, mets en marche. Cumpleaños feliz, cumpleaños. Ah, j'ai dit, c'est pas William, c'est pas ma fille Mélodie, c'est pas mon genre. On dirait pas que c'est William, c'est pas Belle William ça. Mais non, elle dit, écoute. Je remets de nouveau. Ah, Rosé Maria, ben oui, il voulait me souhaiter bonne fête aussi. Alors, non, c'est vrai que ça fait plaisir, frères et sœurs. Alors, je vous dis ça, frères et sœurs, pour vous encourager. Voilà. Je pense que vous le faites, hein. Vous avez des occasions de donner, rendre témoignage ce que le Seigneur a fait dans votre vie, apporter le message de l'Évangile. Bien, continuez, frères et sœurs, à le faire. Je vous encourage. Et c'est vrai qu'il y a de la joie au ciel, il y a de la joie dans notre cœur. Partager ces choses-là, hein? C'est vrai, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. On va prier. Merci Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous accordes, et on te demande, Seigneur, de nous aider les uns les autres dans notre marche avec toi. Nous te bénissons et te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche. J'ai fait un peu plus long que je devais faire. Merci pour votre patience.